Escalade, ma radio.
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Escalade, ma radio, bonjour à vous toutes et tous. C'est l'heure de retrouver votre émission mensuelle Couleur du Monde. Et aujourd'hui, en ce mois d'avril, on va parler de l'Afghanistan. Alors pour ça, nous avons des invités que je vais vous présenter rapidement. Farida Fariad et Jean-Yves Loud. Et avant d'en dire plus sur eux et de les laisser en fait nous dire quelques mots, je dois vous dire qu'il y a quelques rendez-vous auxquels je vous invite très vivement à vous rendre. Le 10 avril, il y a le Festival Universel à Villefranche et ils seront à la librairie des Marais pour jouer un spectacle conférence autour du livre dont nous allons vous parler. Ils seront également le 14 avril à Pomay à Saint-Symphorien-sur-Coise et également à la médiathèque de Vénissieux le 17 mai. Et enfin, le 6 juillet à Nantua, on vous mettra toutes ces dates sous le podcast. Alors, chers amis, du coup, on va vous laisser vous présenter. Il y a également Patrick qui est avec nous à la technique, mais qui interviendra également au cours de l'émission.
Bonjour.
Et bonjour. Donc, voilà, je vous laisse vous présenter. Allez, honneur aux femmes. Farida, tu commences ?
Bonjour, je suis Farida, je viens d'Afghanistan. Il y a à peu près, en fait, 4 ans cette année. Ça va être 4 ans qu'on on est en France avec mon mari et mon petit-fils. J'étais enseignante et chercheuse en Afghanistan. Et je travaille toujours sur les sujets femmes.
Très bien, donc tu travailles sur les femmes.
Oui.
Et tu nous en diras un petit peu plus après. On va laisser la parole donc à Jean-Yves Loud.
Oui, bonjour, je suis écrivain et ethnologue. Et ma légitimité pour parler de l'Afghanistan, c'est que pendant 15 ans, j'ai travaillé à la frontière afghano-pakistanaise, à une journée de marche de l'Afghanistan, pays magnifique que j'ai eu la chance de visiter 2 fois dans les années 70. Mmh. C'est à l'époque un peu béni de l'Afghanistan.
On pouvait donc encore y mettre les pieds, voilà, sans risquer de...
Donc pendant très longtemps dans ma vie, j'ai été baigné par la culture irano-indienne d'Asie centrale.
Très bien. Et on a la chance, du coup, d'avoir un écrivain ethnologue du Beaujolais, hein, puisque vous vivez près de chez nous.
À Cassis-en-Beaujolais.
Voilà, tout à fait. Alors, du coup, dans cette émission, de quoi on va vous parler ? Déjà, on va vous parler de l'histoire de l'Afghanistan. Et puis, dans un second temps, Farida va vous raconter son histoire. Elle va aussi vous parler de son livre, comment elle l'a écrit. Et puis, voilà, vous donner envie de le lire, parce que vraiment, moi, je l'ai lu et je vous invite à le lire. Ensuite, on parlera du peuple Hazara, puisque c'est le peuple de Farida. Et pour finir, évidemment, on évoquera la situation des femmes en Afghanistan aujourd'hui, qui est de plus en plus catastrophique, et donc il faut évidemment en parler. Alors, on va commencer par l'histoire de l'Afghanistan, et donc c'est Jean-Yves Loud qui va nous parler de ça. Je vous laisse la parole.
Oui, c'est vrai que... Tous les jours, on entend à la radio de citer les peuples qui forment l'identité de l'Afghanistan, les Pashtuns, les Tadjiks, les Hazaras, les Ouzbeks, les Baloutches, mais les gens s'y perdent.
Eh oui.
En fait, l'Afghanistan, c'est une nation contrainte. En 1750, elle n'existait pas, on n'avait pas entendu parler de l'Afghanistan.
D'accord.
Il a fallu attendre la création d'un empire afghan, les Durrani, pour être précis.
D'accord.
Qui vont faire un grand, grand empire à partir de l'est de l'Afghanistan jusqu'au Cachemire, le Pendjab, immense empire.
D'accord.
Pendant les 50 dernières années du XVIIIe siècle.
Très
19e
bien.
Siècle, très important, arrivent les Anglais, qui fondent l'Empire britannique des Indes. Et ça commence l'époque moderne de l'occupation et de la contrainte. Le 19e siècle, les Anglais n'ont qu'une peur, c'est les Russes.
D'accord.
L'avancée des Russes.
Ouais.
Donc, ils se disent... Il y a beaucoup de tribus, il n'y a pas d'unité. Il faudrait qu'on mette la main sur cet espace que plus tard on appellera Afghanistan. D'accord. Pour faire un état tampon.
Fait, il faut la réfréner,
les ambitions tsaristes à cette époque-là. Alors, ils vont s'y casser les dents, comme tous les étrangers qui ont essayé de mettre une botte en Afghanistan, ils vont se casser les dents. La plus belle, grosse défaite de l'armée britannique, 1842, dans la Khyber Pass, laminée.
D'accord. Donc, il faut. Par les Afghans ou
par les Afghans, bien sûr, par les forces pashtounes dans les grandes montagnes. L'Afghanistan, c'est un pays qui est environné par l'Hindou Kush, les grandes montagnes. C'est la partie la plus occidentale de l'Himalaya.
D'accord.
L'Hindou Kush. Là, les Afghans sont maîtres chez eux. Et des vallées, des reliefs brutaux. Donc, les Anglais font pacte avec les tribus pashtounes pour fonder un État à la fin, en 1893. Mais pour fonder un État, il faut des frontières. Donc, les Anglais font les frontières, comme les pays colonisateurs ont toujours fait, avec un crayon. Et une frontière, c'est comme un couteau. Et ça sépare les peuples en deux. Les pashtounes qui vont prendre le pouvoir en Afghanistan, ils perdent 2/3 de leur peuple qui reste dans la surface de l'Empire des Indes.
D'accord.
Donc, le premier émir, Abdurrahman, doit faire l'unité du pays à partir des Pashtuns, dont il n'en reste plus qu'un tiers. Et donc, c'est là que tout commence. Parce que, alors, il ne va pas dire « Nous allons faire l'unité du pays en Afghanistan ». Il sait qu'il faut parler autrement. Donc, c'est lui qui déclenche le mode islamique déjà, de dire « Nous allons faire une guerre religieuse. Nous avons deux ennemis à l'intérieur de l'Afghanistan. Le peuple de Farida Faryad, les Hazara, qu'on traite de kafirs, c'est-à-dire païens, parce qu'ils sont musulmans, mais ils sont chiites. Sont des musulmans différents. D'accord. Et donc, là, on va se servir de cet argument pour aller commencer les massacres contre les Hazaras. Et puis, collé à la frontière avec l'Empire des Indes, il y a les kafirs du kafiristan, les païens, les polythéistes du kafiristan. D'accord. Là, c'est impossible, on va les détruire. Et il va envahir cette région en 1896, l'hiver, les prendre par surprise et tout détruire. On a perdu une grande civilisation en 1896.
C'est là-bas qu'il y avait les grands Bouddhas,
les grands Bouddhas, ils sont justement dans la région du peuple de Farida, dans la vallée de Bamiyan, où le peuple Hazara, agriculture, cultivait. Il y avait des routes, les pèlerins chinois, japonais sont arrivés, le Bouddha, le bouddhisme, c'était une terre d'un islam confortable, en fait, je veux dire, qui n'était pas exclusif et excluant comme aujourd'hui.
Oui, d'accord, voilà. C'était ouvert.
Voilà, et tout donc l'État existe, mais l'Angleterre s'arroge le droit des affaires internationales jusqu'en 1919.
Et juste, je vous arrête, donc si je résume, en fait, le premier émir, finalement, sous couvert d'unifier, finalement, cet État que les Britanniques ont dessiné un petit peu comme ça les arrangeait, eh bien, va massacrer, finalement, en tout cas, s'en prendre à la fois au peuple Hazara et au peuple kafir
qui va devenir le Nouristan dont on parle aujourd'hui. Oui. Nouristan veut dire la terre Nour de l'islam, la terre des lumières de l'islam.
D'accord.
Alors, le XXe siècle, ça va être un passage permanent de l'ouverture à la fermeture, ouverture à la fermeture. En 1919, il y a un grand roi qui s'appelle Amanullah Khan, qui lui est un progressiste. Et il ouvre le pays, il fait une tournée internationale en Europe, il veut que les femmes et de l'éducation.
D'accord.
Amanullah Khan ouvre l'Afghanistan.
D'accord.
Mais ça ne dure que 10 ans. Dix ans, pour les conservateurs, c'est trop. C'est trop, donc ils renversent le roi, prennent le pouvoir. Ensuite, ils sont renversés, un roi revient qui est assassiné. Et là, en 1933, il y a celui qu'on appelle aujourd'hui le père de l'Afghanistan moderne, Zahir Shah, qui est un pashtoun. N'oublions pas que même ceux qui veulent l'ouverture, ils restent
pashtoun quand même.
Voulant faire l'unité aux dépens des minorités.
D'accord.
Alors lui, il va durer 40 ans, son règne va durer 40 ans. Il va alors de nouveau ouvrir les écoles, l'université, faire une loi pour que les femmes puissent s'agir si elles sont voilées ou pas voilées.
D'accord.
Ouvrir des routes, il va faire même une monarchie constitutionnelle.
Ah ouais.
Mais Il hésite, un coup avec les Américains, un coup avec les Soviétiques, il profite de tout.
D'accord.
Et ça, jusqu'en 73, mais ça va être les années 70, 70, c'est la partie heureuse de l'Afghanistan.
Il y a eu un peu deux périodes bénies.
Mais dans la famille, des intellectuels, eh bien, ils sont tous formés en Union soviétique, au Kremlin, à Moscou. Et donc, on le trouve trop américain, trop... Et donc, son cousin Daoud, qui était Premier ministre, le dépossède du pouvoir et va continuer une politique où lui aussi va ouvrir à d'autres pays, aux pays arabes, à l'Égypte, à l'Inde... Donc, d'accord, un peu moins soviétique. Aussi. Et donc, dans la famille, il y a des cousins, Amin Tarki, qui l'assassine en 78.
D'accord.
En 78, il est assassiné. Amin Tarki, socialiste dur, avec des idées qui nous paraissent normales. Là, on voyait des infirmières, des instituteurs dans les écoles, mais dans tout le pays.
Oui.
Mais ils vont trop vite, parce qu'ils sont des Kaboulis. Ils sont des gens, c'est des bourgeois de Kaboul. Donc, il y a une différence terrible. Kaboul n'est pas l'Afghanistan.
Bien sûr.
Et ils vont faire des réformes trop vite. Sans être ethnologue. Et donc, même les féodaux, enfin, même les serfs, vont défendre le système féodal dont ils sont assujettis parce qu'ils se sentent bousculés dans leur unité, dans leur état d'âme. Amin tue Tarki, ils vont se tuer entre eux, et le dernier, Najibullah, il ne sait plus quoi faire pour diriger le pays, et il fait ce qu'il n'aurait jamais dû faire, il fait appel au grand frère soviétique. Et donc, dit 1960, 79, l'armée soviétique à Noël rentre dans le pays et c'est 10 ans terribles d'une nouvelle occupation des bottes étrangères. Et là, il y a la fuite donc de beaucoup de personnes vers le Pakistan.
D'accord.
Et c'est les soviétiques qui vont islamiser
le conflit.
Mais oui, pourquoi ? Parce que les moudjahidines qui vont partir dans les médersas, les écoles coraniques du Pakistan, vont dire « Ah, c'est notre punition. L'invasion russe, c'est notre punition parce que nous n'avons plus assez respecté l'islam.
Ah oui, nous
avons
pas
perdu
assez
notre
religieux.
Pureté.
D'accord.
Donc, comme Mahomet, qui a été obligé de partir à Médine, nous allons aller au Pakistan pour nous purifier et revenir comme lui est revenu à la Mecque.
D'accord.
Voilà, c'est ce qui s'est passé. Les Américains ont misé sur les Moudjahidines et qui vont revenir en 94, prendre le pouvoir et ne pas s'entendre entre eux. Et c'est là qu'ils vont se déchirer, alors qu'ils auraient dû faire l'unité de l'Afghanistan. Ils se déchirent entre eux et c'est Kaboul, qui avait été préservé du temps de l'Union soviétique, eh bien, va être bombardé.
D'accord.
Fameux massacre de 93, c'est l'année de la naissance de Farida Faryad, et qui va ouvrir les yeux sur un monde de poudre, de sang, de guerre, et c'est terrible. Mais ces moudjahidines ne s'entendent pas entre eux, les Américains qui... Le sort des Afghans, ils n'en ont rien à faire, c'était les richesses naturelles.
Bien sûr.
Ils ne vont pas pouvoir faire passer le pipeline avec le gaz, donc ils misent sur une autre faction qui est encore à Peshawar, c'est les talibans, et c'est les Américains qui financent la prise de pouvoir des talibans.
Oui, en fait, c'est les Américains qui, pour leurs intérêts, permettent aux talibans de prendre...
Que les femmes afghanes souffrent, ils veulent l'ordre. Ils veulent l'ordre, et donc ils se disent, avec cela, on va avoir de l'ordre. Malheureusement, il y a un certain Oussama Ben Laden qui a fait exploser des ambassades en Afrique de l'Est. Et où est-il ? Ah, il est en Afghanistan. Les Américains disent, livrez-nous Ben Laden. Ah non, nous sommes pachtounes et on a un pachtoun vali, on a un code d'honneur. Si on nous demande l'hospitalité, on ne la refuse jamais. Les USA disent, on ne va pas pouvoir vous admettre à l'ONU. Ah bon, comme ça, on fera sauter les Bouddhas de Bamiyan. Oh,
c'est
mon
là
Dieu.
Que les Bouddhas...
Ils font sauter les Bouddhas de Bamiyan, les Twin Towers s'effondrent, et c'est là, de nouveau, la guerre des USA. Pour se débarrasser des talibans, ils rentrent avec les alliés.
Des talibans qu'ils avaient eux-mêmes
installés, mais c'est encore pas avec eux qu'on va pouvoir mettre de l'ordre économique. Et donc, c'est la première installation des talibans.
Très bien.
La chape de plomb sur les femmes est évacuée, mais les Américains vont installer pendant 20 ans, avec les alliés, un ordre qui est... Oui, au début, les 4 premières années, on est content de se débarrasser de ces talibans, qui, par exemple, pour les Iraniens... sont les parias de l'islam. C'est un islam galvaudé, détruit, insulté.
Alors, On va lancer la première pause musicale et puis on terminera voilà, sur cette histoire avant de passer à l'histoire de Farida, mais finalement tout ça se chevauche, hein. Donc c'est parti pour la première pause musicale.
گل صد برگ تو بستان و میار، فرار از ملک مالستان و میار، فرار از ملک مالستان و میار. از آن روزی که گشتم از وطن دور، جگر پر درد و دل نالان و میار، جگر پر درد و دل نالان و مسلمانا در اشار شمایم، غریب و به کس و به هاشونایم، غریب و به کس و به هاشونایم. چلی پرکو بیدی باری مسافر، کیم شو اینجی و فردا کجایم، کیم شو اینجی و فردا کجایم.
Du monde.
Chères auditrices et auditeurs, nous sommes toujours sur Kaladma Radio, dans votre émission préférée, Les Couleurs du Monde, qui traite aujourd'hui de l'Afghanistan. Je vous rappelle que nous sommes en compagnie de Farida Faryad et de Jean-Yves Loud pour parler de ce beau pays qui est, hein, on en a terminé dans la partie d'avant, dans une situation compliquée. Alors, est-ce que Farida, avant qu'on reprenne notre discussion, tu pourrais nous dire deux mots sur la musique qu'on vient d'entendre de Elea Soror? Alors, Golé Sabar, je vais te laisser le dire. c'est mieux.
Oui, la Hasoror, elle est une jeune fille Hazara, oui. Elle est chanteuse, et ce chanson qu'on entend, Gole Sadberg Tabistan Amayor, c'est une poésie d'une chanteuse Hazara, qu'elle est morte déjà, mais elle est très célèbre.
D'accord, elle est très célèbre, et oui. Donc elle a Soror, elle a repris cette
oui.
chanson.
Oui, elle a dit « Gule Sadberg Tabistan Amayor, Farar az Mulg Malistan Amayor, Az an Ruzi ke Gashtam az Vatandur, Jigar pour Dard de l'Nolan Amayor. »
Oh, c'est beau. Merci. Merci beaucoup de nous avoir fait entendre. Donc c'est du persan, hein, cette jolie oui. langue de Farid.
C'est le dialecte de Hazara.
C'est le dialecte des Hazara.
Oui.
Ah, magnifique. Merci Farida. Alors, on va peut-être passer à ton histoire, en fait, parce que finalement, on n'a pas tout à fait terminé hein, la reprise des talibans, mais je pense qu'en fait, elle va arriver quand on va parler de
oui,
ton histoire,
ça va
nous permettre de raccrocher l'histoire du pays. Tu peux nous raconter un peu ta vie, Farida?
Oui, je commence par mon essence. J'ai né dans la guerre, après j'ai grandi oui. dans la guerre et à la fin on est obligé de quitter.
Et oui, c'est
à cause de la guerre.
Ouais, donc ta vie dans ce pays, elle a été difficile.
Oui, c'était très difficile en fait. Depuis que je me souviens, ma mère, elle nous raconte, elle nous dit par rapport à notre ethnie, à Hazara oui. et par rapport à les pauvres. L'économie, parce que les peuples Hazara, en tant qu'une minorité détenue en Afghanistan, elles sont très pauvres.
D'accord. En fait, ils n'ont pas accès à des postes qui leur permettent d'avoir de l'argent. Donc, c'est une ethnie qui est pauvre parce que,
elle n'a pas été intégrée économiquement. Elle est restée aux marges, en quelque sorte, volontairement.
Oui. En fait, les Hazara, c'est une ethnie minorité en Afghanistan qui vivent principalement dans les régions, dans les villes centrales du pays. Elles ont subi beaucoup de violences par les autres ethnies, notamment par les... En fait, je ne suis pas raciste, mais elles ont subi toujours de violences.
En fait, c'est
un massacre.
C'est un bouc émissaire.
On voit c'est le massacre, le... discrimination dans l'espace académique.
D'accord.
Pendant que j'ai fait mes études dans l'université, on est plusieurs fois au niveau de la discrimination.
Ouais. Oui, c'est-à-dire parce que tu avais le visage d'une Hazara, en fait.
Oui, à cause de notre religion, à cause de... En fait, les Hazara, elles sont célèbres par le nez aplati.
D'accord.
Oui.
Ok.
Oui, il faut juste rappeler qu'il y a eu des mouvements de population sur
Bien
le
sûr.
Dernier millénaire, qu'il y a eu des peuples qu'on appelle turco-mongols, des monts Altaï, et qui sont arrivés là. Mais
ouais,
ça fait mille ans qu'ils sont supposés vivre ensemble.
Bien sûr.
Et ça ne marche pas.
Ouais.
Incroyable.
Et à cause de cette difficulté qu'on a vécue, j'ai fait mes études, j'ai décidé de choisir le sujet des femmes.
Oui. Ce qui t'a motivé pour choisir le sujet des femmes, c'est justement la difficulté des femmes.
La difficulté, les choses, les difficultés, les problèmes que ma mère, elle raconte.
Oui, c'est ça. Du coup, en fait, tu t'es inspirée pour dire, moi, je veux... Ma maman, elle me raconte des choses et moi, je veux, en fait, m'emparer de ce sujet-là et me révolter.
Oui, parce que mes frères, mes sœurs, en première période de Taliban, quand toutes les écoles, les universités sont fermées, mes sœurs, elles ne réussissent pas, elles ne sont pas allées à l'école.
Oui, elles ne sont pas allées à l'école.
Et elles sont obligées de faire de mariage.
C'est ça, oui. Elles ont été obligées de se marier, elles n'ont pas pu faire leurs études. Mais pendant que les talibans étaient là, toi non plus, tu n'allais pas à l'école. Mais juste, tu n'as pas lâché, en fait. C'est-à-dire qu'une fois que tu as pu y aller, hop, toi, tu es retournée.
Oui.
C'est ça.
pendant cette 20 ans, j'ai fait mes études et je travaille sur le sujet femmes. Et une fois qu'on est arrivé en France, après le chute d'Afghanistan, j'ai vu, en fait, je me sens avec toutes mes existences la liberté.
Tu as enfin senti la liberté.
Oui.
C'est beau ce que tu dis.
Et après, je me dis que c'est ma devoir que je raconte mes histoires. L'histoire de ma mère, les histoires de mes soeurs, l'histoire de moi-même. En fait, j'ai décidé d'écrire en personne.
Oui.
D'accord.
Et quand on est venu à Villefranche, on contacte heureusement avec Jean-Yves.
Jean-Yves.
Et après, c'est grâce à Jean-Yves qu'on arrive de publier cette livre. Dans cette livre, j'ai raconté trois générations. Si on parle sur le général, j'ai raconté trois générations de femmes en Afghanistan.
Oui.
Les trois générations qu'elles sont toujours dans les mauvaises
postures. Elles sont toujours dans une mauvaise condition.
Ouais.
Juste, on va rappeler le titre de ce livre qui s'appelle donc Collection de chagrin. J'ai perdu le sous-titre.
Le défi poétique d'une femme afghane.
Voilà, c'est ça. Et donc, ce livre, tu l'as écrit en persan, tu l'as traduit avec l'aide de Jean-Yves Loud. Et ensemble, vous en avez fait en fait un long poème narratif qui est magnifique.
Ouais,
vraiment, j'insiste.
C'est absolument magnifique.
Il faut acheter et lire ce livre qui est publié aux éditions du Poutan à Villefranche-sur-Saône. En plus, on reste local, mais vous pouvez le commander sur le site de la FNAC,
Amazon.
Vous pouvez le trouver à Cultura, sur Amazon. À la librairie des Marais.
Vous serez le 10 avril.
Donc, vraiment, lisez ce livre. Tu veux, du coup, je ne sais plus où j'en suis. Peut-être on pourrait rappeler à ce moment-là, du coup, l'arrivée des talibans, peut-être en dire quelques mots et le rôle que ça a joué. Comment tu as pu, du coup, toi, être...
Alors, tu parles de l'arrivée dans les années 90 ou de leur retour après le départ américain ?
Non, de leur retour, puisque...
Leur retour après le départ américain.
Jean-Yves Loud s'était arrêté à leur arrivée dans les années 90. C'est le moment où donc, les sœurs de Farida n'ont plus pu aller à l'école et où après, elles ont été obligées de se marier. Et Farida, elle s'est accrochée. Donc, après le départ des talibans, elle a pu faire ses études. Elle était donc enseignante-chercheuse en 2021. Ils sont revenus, les talibans.
Enseignante-chercheuse
à Kaboul. Elle était en train d'écrire sa thèse. Et du coup, je vous repasse la parole.
Oui, mais c'est toujours la même chose. Ces 20 années de présence des alliés de l'armée américaine n'ont pas résolu le principal problème d'Afghanistan, c'est-à-dire le bien-être du peuple. Kaboul, bien sûr, s'est développé, mais c'est toujours le même problème. Kaboul, ce n'est pas la totalité de l'Afghanistan. Alors, mettons toute l'action sur la formation des gendarmes, de l'armée, et puis faisant beaucoup de bavures dans la chasse à Osama Ben Laden et de Daesh, eh bien, l'armée américaine a fini par être vue comme une armée d'occupation.
Voilà,
et donc, la périphérie de l'Afghanistan a été une proie facile pour les talibans qui étaient en embuscade pour montrer aux paysans, au monde rural, que c'était eux la solution. Ils ont grignoté. Alors, Obama a dit, ne voulant pas tomber encore dans le piège d'une vietnamisation, a dit, on va retirer nos gars, nos GIs. Trump a confirmé, et c'est Biden qui l'a fait. Qui a fait la décision des deux autres, et dans une précipitation terrifiante où l'armée afghane a été balayée. Et donc, le 15 août, les talibans ont repris le pouvoir. Et tout le monde s'arrachait les cheveux. Et donc, il y a ces fameuses scènes qui ont marqué notre imaginaire. Donc, de ces avions qui roulaient sur le tarmac de l'aéroport avec dedans des personnes comme Jawid et Farida, qui ont été choisis en raison de la menace extrême qui pesait sur eux, et puis les autres qui accompagnaient ce vol de départ. C'est une période terrifiante.
Oui,
terrifiante,
tout à fait. La semaine de la terreur, pour toi, avant de pouvoir partir. sans dire au revoir. Enfin, ouais. Voilà, c'est vraiment terrible. Hein, cette...
Et puis, la menace terrible, c'est que moi, j'aime beaucoup le titre de Farida. Elle est chercheuse en poésie.
Oui,
je trouve c'est magnifique. C'est un titre magnifique.
Mais ça te va très bien.
Pour les talibans, c'est pas une référence.
Évidemment, ouais. Et pour les talibans, c'est tout le contraire de ce qu'ils veulent, et de ce qu'ils sont en train de faire aux femmes en Afghanistan.
Si on passait à la partie de l'histoire du peuple Hazara, ce serait intéressant, non?
Eh bien, tout à fait. Alors, peut-être, on te redonne. Tu voulais dire quelque chose, Farida?
Oui, je dis par rapport à les talibans, qu'elles ont, en fait, chaque jour, chaque mois, chaque semaine, elles ont une règle sur les femmes.
Oui.
Et comme Johnny Vela dit que c'est un bon titre pour moi, chercheuse poésie.
En poésie.
Oui. Maintenant, en Afghanistan, il y a des librairies, il y a des bibliothèques, mais elles sont très pauvres parce que les talibans, déjà, elles ramassaient tous les livres, toutes les poésies, tous les romans, tous les livres qui viennent des pays arabes. On a beaucoup de traduits des livres, mais elles brûlent.
Eh oui, ils brûlent tout.
Ils brûlent tout.
OK.
Oui, il y a un roman célèbre en Afghanistan qui s'appelle Le libraire de Kaboul.
D'accord.
Et comme dans Uri de Kamel Daoud, quand il y a la liberté, on publie tout.
Oui.
Et puis quand il y a la restriction de liberté, alors il n'y a plus que les livres religieux et les livres de recettes de cuisine. Voilà, c'est tout ce qui reste dans les librairies avant qu'elles disparaissent. Moi, je voudrais ajouter qu'on voit toujours l'Afghanistan comme un peuple de guerriers avec des kalachnikovs aux mains, un monde viril avec des... Mais je voudrais contredire cette vision. L'Afghanistan est une terre de poésie. Depuis très très longtemps, quand il y avait un islam conciliant, c'était la terre des grands, où sont nés les grands poètes du soufisme, où sont nés Hafez, Rumi, tous ces gens-là ont fait de la poésie et ont dispensé leur sagesse pour la poésie. Alors Farida Faryad le dit très bien, dans les poésies des hommes... La femme était au centre de toutes les attentions, mais une attention rêvée, une attention fantasmée, utopique, mais comme quelque chose d'impossible à atteindre. Alors, dans la poésie soufie de l'Afghanistan, il y en avait beaucoup, il y avait des derviches, et il faut voir que l'on parlait de Dieu avec le vocabulaire du vin, de l'ivresse et de l'amour. Donc il y a une confusion qui est très, très, très nette. On est idéalisé, on est toujours dans la peine de ne pas pouvoir atteindre. Et les hommes et les femmes, mais les femmes sont sujets. Elles n'ont jamais participé à cette poésie-là, ou si elles l'ont fait, on leur a volé leur texte. Tandis que le travail que fait Farida, c'est cette partie cachée de la poésie afghane, cette partie clandestine, cette force de résistance poétique.
La poésie des femmes.
Et pourquoi les talibans l'interdisent ? Parce qu'ils savent que la poésie, c'est une arme fatale, terrible. Elle ne s'éteindra jamais. Et la preuve, pour moi, Farida Faryad, c'est l'avenir de l'Afghanistan déporté en France. Comme l'avenir du Tibet est hors du Tibet. L'avenir de l'Afghanistan, aujourd'hui, il est hors de l'Afghanistan. Mais moi, j'aime passionnément le travail que l'on fait ensemble parce que, d'abord, ça évite de se sentir impuissant le matin avec l'avalanche des mauvaises nouvelles. Au moins, là, on agit et on prépare un futur parce que l'absurdité ne dure pas. L'abus et l'absurdité ne durent jamais. Et là, on est arrivé à un sommet de l'absurdité les talibans ont même interdit que les femmes fassent de la poésie, bien sûr, chantent, récitent, quoi que ce soit, et on met des grillages aux fenêtres.
Tout à fait.
Donc, on prépare l'avenir ici.
Merci pour ce message d'espoir. Alors, du coup, on va enchaîner quand même, on va faire un focus sur le peuple Hazara, sur le peuple de Farida. Est-ce que tu veux nous en parler ? Est-ce que Jean-Yves voulait nous dire un peu l'histoire de ce peuple ?
Tu pourras, Farida, ajouter sur l'identité Hazara, mais il faut bien comprendre que toute cette terre, il y a eu des migrations sans arrêt. Le plus célèbre des envahisseurs de l'Afghanistan qui n'existait pas encore, c'est quand même notre cher Alexandre le Grand, qui est arrivé trois siècles avant Jésus-Christ, qui s'est installé dans le nord de l'Afghanistan, qui a fondé une satrapie. Ensuite, il y a des Sites. Alors, les Sites, c'est un nom, mais on les appelle les Yuches. Ce sont des tribus qui sont arrivées dans des confins de la Chine et de la Mongolie, qui sont des tribu turco-mongole.
D'accord.
Alors, Gengis Khan n'a pas laissé que de bons souvenirs en Afghanistan. Donc, il y a ça aussi, ces souvenirs lointains, mais ça fait quand même 1000 ans, enfin, 100, 900 ans, si on n'arrive pas à vivre ensemble. Pour moi, avec l'unité linguistique, une ethnie, c'est un peuple, c'est quand même qui habite le même territoire, obéissent au même pouvoir et qui parle la même langue.
Bien sûr.
Alors, il y a des nuances dans les langues, le tadjik, entre le Hazara, entre le Pashtun, mais on est quand même dans le monde du Farsi, du Persan, on appelle le Dari en Afghanistan.
D'accord.
Donc c'est une richesse, chaque
Bien
langue
sûr.
Apporte une saveur, c'est la culture de... Mais le gros problème de l'ethnie Hazara, donc c'est effectivement qu'ils sont physiquement reconnaissables, mais les Ouzbeks aussi, les Turkmènes aussi, les Kirghiz aussi, alors qu'ils aient été les descendants des soldats qui ont laissé de mauvais souvenirs en Afghanistan.
Oui, ça commence à dater.
Qu'est-ce qui fait le
peuple Hazara? Comment tu pourrais définir ce qui fait le peuple Hazara?
En fait, le peuple Hazara, à cause de son pauvreté, ils ont toujours essayé. En fait, ils n'ont pas de choix, par exemple, de travail dans les espaces gouvernementaux.
D'accord. Ouais, et c'est pour ça qu'ils ont la stigmatisation.
Oui. Et ils ont toujours les jeunes filles Hazara et les garçons, ils ont toujours essayé d'apprendre.
D'accord. Mm-hmm.
Ils ont essayé et en fait, ils ont choisi le chemin d'apprentissage.
D'accord. En fait, ils ont compris que par l'apprentissage, ils pourraient avancer parce que, en fait, leur seule ethnie ne leur permettait pas de le faire.
Non.
C'est ça qui les a poussés vers l'apprentissage.
Il ne faut pas oublier que le peuple Hazara avait une sorte de pays dans le centre de l'Afghanistan.
Que
c'était des agriculteurs, qu'ils étaient puissants, qu'ils avaient une armée. C'est au moment de cette fausse unité, en fait, cette unité musclée
dans la violence, il y a un massacre, c'est des
attaques militaires et des massacres organisés contre ce peuple. Il y a
une idée du pourcentage du peuple Hazara qui a été décimé.
On a compté 24 massacres depuis 1890, 24, et c'est on n'a pas des comptes exacts, mais c'est toujours par dizaines de milliers. Il faut quand même. Alors l'émir Abdourahman a même envoyé une arme terrible chez ces agriculteurs, il a envoyé des nomades bergers avec leurs troupeaux. Il n'y a rien de mieux pour détruire des terres agricoles.
Surtout qu'ils
étaient accompagnés par des molosses, des chiens que j'aimerais pas rencontrer. Et puis, bon, il ne faut pas se leurrer, l'argument religieux a été utilisé par l'émir Abdourahman et c'est cet argument de discrédit et de mépris.
Parce qu'en fait, les Hazara, ils ont quelle religion?
Ils ont les chiites. En fait, les chiites, pour les autres ethnies, ça veut dire kafir.
D'accord.
Oui.
Ils nous appellent kafir. C'est mauvais, c'est comme des païens, en fait. Pourtant, vous êtes tous des musulmans.
Oui, pourtant, on est musulmans, mais dans la religion musulmane, il y a beaucoup de parties.
Oui, non, c'est une façon, c'est l'argument.
C'est un prétexte, tout à fait.
Et puis parce que le leader de l'islam, le quatrième émir, était Ali.
D'accord.
Qui devait succéder à Mahomet, mais qui a été chassé par les oncles du prophète. Et c'est lui, le quatrième en dernier, mais c'est lui qui va initier le schisme.
D'accord.
C'est très simple. Les sunnites, la plupart des musulmans sont sunnites. Sunna, c'est la lettre. Donc, on obéit à la lettre qui a été dictée au 6e siècle.
D'accord.
Un point, c'est tout. On suit la lettre et même aujourd'hui, cette lettre-là définit et peut contrôler la vie, la conduire.
Oui.
Les chiites ont dit, c'est compliqué, la parole de Dieu est un peu puissante, elle est obscure, et il faut à chaque époque qu'il y ait des
interprétations, des ayatollahs,
des aménagements qui éclairent.
Oui.
Voilà, c'est au nom de cette différence que des milliers, des millions de musulmans se sont tués entre eux.
C'est quand même terrible.
Voilà. Ouais. Voilà. Mais là, c'est le prétexte. Rappelez-vous d'un très beau film qui s'appelait Les cerfs-volants de Kaboul.
Je ne l'ai pas vu.
Ce livre a fait un succès mondial. Et c'est magnifique. Ce que disait Farida, c'est qu'après, à cause de tout ce mépris, les Hazaras n'ont plus servi que de portefeuil, de lumpen prolétariat.
C'était des boucs émissaires, comme le disait Patrick.
Mais les travaux les plus subalternes,
main-d'œuvre quasi servage.
Et dans les cerfs-volants de Kaboul, c'est une famille pachtoune. Le père est extrêmement bien vu, la moralité absolue en personne. Et son fils doit lui succéder. Il a pour ami le garçon, le fils de la servante qui est Hazara.
D'accord.
Et puis on s'apercevra à la fin que le père a lutiné sa servante Hazara et que les deux amis sont demi-frères.
Demi-frères et
sœurs. Voilà. Et ça en dit long sur la société.
On va passer du coup à la deuxième pause musicale. Mm-hmm. C'est parti, on vous en parle juste après.
Chu John me ravi andar mian e jon ma khushi da chu John me ravi andar mian e jon ma sarvi khira mon e mali hai rao na ke gusan ma sarvi khira
Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Chers auditeurs de Kalama Radio, nous sommes toujours dans l'émission Les couleurs du monde consacrée à l'Afghanistan. Nous sommes avec Farida Fariad et Jean-Yves Loud. Nous vous avons parlé de l'histoire de l'Afghanistan. Nous avons également parlé de Farida et de son histoire et de son livre Collection de chagrin que nous vous invitons très vivement à lire. Et nous avons également parlé du peuple Hazara et de ses particularités. Alors, on vient d'écouter un morceau de Homayoun Raonac qui s'appelle Poshida. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Oui, alors Homayoun Raonac et toute la famille Raonac fait partie de la première vague d'émigration quand l'armée soviétique est arrivée. La famille Raonac à Kaboul est très connue pour son engagement dans la culture, la défense des musiciens et de la poésie. Et ils ne sont pas musiciens de carrière, mais ils ont encouragé l'art. Quand ils sont arrivés, ils devaient partir. La même urgence, ils devaient partir. Mohamed Raonac a été l'homme qui a traduit Molière en farsi et a fait jouer le malade imaginaire et les femmes savantes à l'Institut français de Kaboul avec les costumes d'époque. C'est vous dire qu'à cette époque-là, on pouvait faire du théâtre mixte.
Donc, incroyable.
Homayoun Raonac est d'origine tadjik, ce qui est persanophone, et lui, il s'est servi de cet apprentissage pour défendre, là encore, la culture afghane ici, dans la diaspora. C'est une famille installée depuis très longtemps dans la région lyonnaise, et il pratique ce qu'on appelle le razal. Le razal, c'est l'art soufi de la poésie spirituelle et mystique, où on utilise effectivement l'amour pour parler de Dieu. Il joue de l'harmonium, il chante, et c'est extrait de son album solo.
Merci beaucoup.
Nawa.
Alors, il est temps pour cette dernière partie de parler de la situation des femmes en Afghanistan. Je te laisse la parole, Farida.
Oui, en fait, nous savons que nous sommes au XXe siècle.
Oui.
Une époque où les Nations Unies et la communauté internationale prennent l'égalité et les droits humains.
Oui.
Elles en parlent toujours sur les droits humains, les conditions des femmes, sur les droits des femmes.
Égalité hommes-femmes.
Égalité hommes-femmes.
Tout à fait.
Mais pourtant, en Afghanistan, la moitié de la société est privée.
Oui.
Elles sont dans les prisons.
Tout à fait.
En fait, en Afghanistan, pour moi, c'est une prison pour les femmes
c'est
en ce moment.
C'est une prison pour femmes, oui.
En fait, l'Afghanistan, c'est un pays traditionnel.
Oui.
C'est un pays patriarcal.
Oui.
C'est un pays que toujours les hommes décident.
Tout à fait.
Mais, depuis que les talibans reviennent, c'est encore plus pire.
C'est ça. En fait,
pour les femmes.
À l'origine, c'est un pays patriarcal
déjà.
Mais l'arrivée des talibans a fini d'enfoncer le clou et de vraiment d'enfoncer les femmes dans l'obscurantisme le plus total, en fait.
Oui. Et les femmes, elles subissent aussi aux actes les plus sauvages inhumains.
Oui,
en
bien
ce
sûr,
moment.
Bien sûr.
Assassinat, violence, mariage forcé, mariage des enfants.
Mariage des jeunes filles,
des
c'est
jeunes
ça,
filles,
hein, 10 ans,
oui.
11 ans. Hein.
De 10 ans, en fait, de 10 ans, une fille de 10 ans, elle est obligée de
se marier.
De se marier. En fait, la communauté internationale, elle parle toujours sur la condition des femmes.
Oui.
Mais il y a 4 ans, à peu près 4 ans, on arrive de la quatrième année que les talibans ils restent en Afghanistan.
Oui.
Mais la communauté internationale, elles ne font rien pour les femmes afghanes.
Oui, c'est ça. Elles se sentent totalement délaissées, les femmes afghanes, actuellement.
Ils ont dit qu'on fait l'école calendista, on fait le cours en ligne.
Oui. C'est, elles c'est elles arrivent nouvelle. Quand même oui. à faire des cours en ligne, oui. les femmes.
Oui, en fait, c'est après le close des portes des écoles, oui. elles ont fait les écoles clandestines, elles ont fait des cours D'accord. en ligne, mais pas pour tout le monde, pour toutes
Bien
les
sûr.
Filles.
Pour toutes les filles. Ouais. Mais c'est pas, oui. c'est encore pas accessible à tout le monde. Moi, j'ai oui. entendu à la radio.
Ça veut dire qu'en fait, les femmes afghanes, elles ont trouvé un nouvel chemin pour apprendre.
Oui,
elles ne arrêtent pas.
Oui, c'est
elles
ça.
Jamais
en fait, elles
arrêté.
Continuent de se battre.
Se battre,
ça,
oui.
C'est, ouais, ouais, c'est fort. Après, c'est malheureusement, il y a beaucoup de filles qui oui. n'arrivent pas à accéder à ces réseaux clandestins. C'est-à-dire que, et puis, ça reste très dangereux. J'imagine que quand on se fait attraper, oui. c'est la mort, la prison. Qu'est-ce que, si on se fait attraper dans une école clandestine
J'ai vu quelques vidéos oui. de cette école clandestine. Oui. En fait, c'est ce que pour moi, que j'ai toujours travaillé sur les sujets femmes. Oui. Pour moi, en fait, ils ont dit les petites filles, ils ont dit, ils rappellent les talibans comme un frère. Mm-hmm. Moi, je ne sais pas. J'ai vu une vidéo. Et ils ont publié une vidéo de cette école clandestine et ils ont dit que eux, talibans, eux, mon frère, ouvrent les écoles. Oui. C'est pour c'est à cause de ça que pour moi, l'ouvrir de portes des écoles, ce n'est pas la priorité pour les filles. En fait, oui. la méthode. D'accord. Oui. Le méthode, en général, le méthode, le méthode d'éducatif
oui.
en Afghanistan, c'est pas une bonne méthode, c'est pas les profs qui choisissent, c'est toujours les gouvernements
oui,
qui
d'accord.
choisissent. C'est
un, en fait, oui, c'est-à-dire oui. que si jamais il y a des écoles qui sont réouvertes pour les filles, on va leur oui. laver le cerveau finalement.
Oui,
on va
leur, mais oui, en ce ça. Moment, sur les régimes des talibans, je vous dis que c'est un, si on pense qu'il ouvre les portes des écoles oui. pour les filles, c'est encore j'ai peur en fait. C'est,
oui, tu as peur que ça soit pire.
Oui, oui. C'est une menace.
Oui,
c'est une menace pour oui. les parce qu'ils ont changé son mémoire.
Mmh. Oui, oui, c'est ça. Ils vont, en fait, ils vont les manipuler.
Vous savez, quand, oui. Déjà, on parlait que la première fois quand elles sont venues, après quelques mois, elles sortent les talibans, le chef des talibans, oui. elles sortent un livre et dans ce livre, elle explique toutes les règles. Elle a dit que c'est les règles d'islam, mais on n'accepte pas. Et elle a dit que dans ce livre, elle a dit que une fille de 10 ans ou d'un enfant de 10 ans, elle est obligée de se marier.
Oui. Mm-hmm. oui, donc c'est de la
avec cette méthode éducative, on pense quoi?
Oui, bien sûr, en fait, ça ne va pas faire progresser les femmes.
Oui, c'est pour ça que, pour moi, en fait, l'offrir des portes des écoles, ce n'est pas la priorité.
Oui.
C'est, on ne oui. fait pas le combat pour
l'offrir. La réouverture
on
des
doit...
portes des écoles,
je comprends.
Tout à fait.
Ouais.
Alors, j'ai entendu dire que se posait la question si pourquoi les talibans permettaient ces écoles numériques, ces rassemblements et une réponse a été donnée, c'est qu'ils envoient leurs propres enfants et leurs propres filles dans certaines. Oui, c'est vrai. Et je crois que ça montre bien le paradoxe. L'absurdité
absurde,
a des
en fait,
limites. Et donc, il y a toujours des voies périphériques qui contournent l'absurde. L'islamisme utilisé par les talibans, c'est une arme de guerre. Hein.
Ouais.
C'est une arme aussi de provocation vis-à-vis de l'Occident.
Bien sûr.
Je crois qu'on...
C'est un islam, en fait. C'est un islam politique.
Oui, c'est ça. C'est
totalement,
un islam politique.
Totalement. Mm-hmm. Mais il faut bien comprendre juste une chose, c'est que l'Afghanistan subit la pression de tout, ou les intérêts égoïstes de tous les voisins. Le Pakistan, aujourd'hui, est discrédité d'avoir supporté les talibans. C'est à l'époque de l'occupation des Alliés. Donc,
oui.
c'est l'Inde qui s'installait. L'Iran méprise les talibans, mais ils avaient peur que l'armée américaine profite de leur position en Afghanistan pour démolir l'État des ayatollahs.
Oui.
Aujourd'hui, ils sont contents que les talibans, bon, que les intermédiaires Américains soient partis, mais ils ont fermé la porte aux réfugiés, principalement Hazara, qui ne sont pas si bien que ça reçus en Iran aujourd'hui.
Même s'ils sont chiites, ils ne sont pas bien reçus pour autant.
Non. Ouais. Alors l'Inde est revenue, l'Inde aussi. C'est le conflit pakistanais-indien qui est toujours... Ils sont en guerre et l'Afghanistan est un terrain de bataille entre l'Inde et le Pakistan. La Chine, elle a une cinquantaine de kilomètres de frontière. Mm-hmm. Elle regarde par cette lorgnette comment arriver au nord-est afghan où il y a toutes les richesses et les routes de la soie. Les routes de la soie qui pourraient passer. Les femmes afghanes et leur sort. Mais tous ces gens-là, ils n'en ont rien à faire. Ouais.
Tout est intégré dans un jeu géopolitique colossal. Et donc les femmes sont broyées à l'intérieur. On va arriver à la fin de cette émission. On va passer à la conclusion.
Tout à fait.
Je te laisse la main, Emma.
Eh bien, je dirais que je suis très contente qu'aujourd'hui, on ait pu faire entendre la voix d'une femme afghane. Je rappelle qu'actuellement, dans les dernières mesures des talibans, les femmes n'ont plus le droit de parler dans la rue. On veut même leur interdire. On ne veut plus entendre même leur voix. Donc, on cache leur visage, on cache leur voix, on cache tout. Et donc, je vais te laisser le mot de la fin, Farida. Tu dis ce que tu veux, mais c'est la voix d'une femme afghane qui termine cette émission.
En fait, les femmes afghanes, elles ne vont pas ouvrir la porte des écoles en premier.
C'est pas leur priorité.
Mais elles vont à tout le monde, à toutes les femmes afghanes, vont à tous les pays, à la communauté internationale, que la communauté internationale et les autres pays, elles ne doivent pas reconnaître le régime des talibans.
D'accord.
Très bien.
Merci Farida, merci Jean-Yves.
On va s'arrêter sur ces mots-là.
Chers auditeurs, au mois prochain.
Calade. Les couleurs du monde.
Histoire.
Pensée.
Culture.
De Villefranche à Tataouine.
Sur le 100.9 et radio-calade.fr.